Je vous invite, si vous le voulez bien, à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu au chapitre 26. Pour lire un texte que nous connaissons, je crois, assez bien. Médité souvent dans la période de Pâques. Nous en sommes encore un peu loin. Mais je crois que ces textes sont aussi à méditer dans d'autres moments. Matthieu chapitre 26, et nous lisons ce texte qui se situe dans les versets 36. 26-36. Et nous lisons jusqu'au verset 46. Matthieu 26, 36 à 46, alors que le texte s'affiche. Je veux juste rappeler à la nouvelle génération qu'il y eut un temps où nous n'avions pas de PowerPoint et où chacun venait avec deux choses, son cantique et sa Bible. Voilà. Juste une remarque. Hein. Je sais que ce n'était pas du tout un reproche, mais c'est que nous attendons tellement ce que le PowerPoint s'affiche pour lire le texte, que nous en devenons pratiquement dépendants, et que moi qui suis de la vieille génération ai quand même un peu de mal à me mettre avec le PowerPoint, c'est vraiment pour faire un effort de modernité que je m'astreins à faire ce PowerPoint, mais je suis nul en PowerPoint. Mes PowerPoints sont plutôt des pauvres points. Je lis donc à partir du verset 36, ce texte qui se situe au dernier moment du ministère de Jésus, un moment clé, si j'ose dire, des derniers combats, de ce dernier combat que Jésus mène pour aller au bout de sa mission et qu'il mène, souvenons-nous-en, pour chacun d'entre nous. Là-dessus, donc tout de suite après avoir célébré justement la scène, le repas pascal, Jésus arriva avec ses disciples en un lieu appelé Gethsémané. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse. Et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse. » À en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. » Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je veux, mais comme toi tu le veux. Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. » L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc là et s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Et lorsqu'il revint auprès des disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez ?
L'heure est venue où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. J'ai intitulé ma méditation de manière peut-être un peu grandiloquente, au cœur des émotions du Fils de Dieu. Grandiloquente parce que je ne pense pas qu'en méditant ce texte, nous aurons fait le tour des émotions de Dieu, vécues en son Fils Jésus-Christ. Mais il me semble que nous avons, dans cette méditation, dans ce texte, quelques éléments qui nous parlent des émotions du cœur de Dieu. Et c'est moins sur la conclusion sur laquelle beaucoup se sont déjà arrêtés, non pas que ta volonté soit faite, non pas que ma volonté soit faite, mais la tienne que j'aimerais m'arrêter, mais surtout sur le chemin qui conduit vers cette affirmation comme un cri de victoire sur la tentation que le Christ a subie dans ce jardin d'Éden. Et dans ce parcours, j'aimerais mettre le doigt sur ce qui a souvent été dans la théologie du 19e, fin du 20e, un peu mis de côté par les évangéliques, en deux mots de théologie qui se sont un peu affrontés, la théologie libérale, qui n'a mis l'accent que sur l'humanité de Jésus-Christ, et puis la théologie piétiste évangélique, qui, elle, a mis l'accent que sur la divinité de Jésus-Christ. Et j'aimerais, parce que nous l'avons souvent oublié dans nos milieux, mettre l'accent sur l'humanité de Jésus-Christ. Jésus est pleinement homme, pleinement Dieu. Il est pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme. Je vous entraîne donc dans ce mont des Oliviers, où le soleil se couche sur Jérusalem. La pénombre envahit le jardin dans lequel Jésus a entraîné ses disciples, et la nuit va bientôt tomber. Et paradoxalement, l'obscurité qui va s'abattre sur ce lieu rend de plus en plus nets les contours de la croix. La croix se dessine de manière encore plus distincte. Celle-ci se dresse devant Jésus avec toute la brutalité et avec toute l'horreur qu'elle lui inspire. En quelques heures, il subira les souffrances les plus cruelles, l'humiliation la plus dégradante et la séparation la plus dramatique qui soit. Souffrance, humiliation, séparation. Nous sommes là bien dans un chemin humain. Jusqu'ici, la croix semblait lointaine. Tant de choses restaient encore à dire, tant de choses encore à partager avec ses disciples, tant de choses encore à vivre avec ses amis, tant de visages encore à découvrir et avec lesquels se réjouir, tant de personnes à guérir, tant de personnes à consoler. Mais maintenant, quelques heures le séparent de la tragédie qu'il doit affronter. Celle pour laquelle il est venu. Oui, Jésus s'apprête à entrer dans ce que j'appelle le couloir de la mort. Le long couloir qui mène à Golgotha. En même temps que les ténèbres envahissent Gethsémané, l'angoisse, la crainte le submerge le cœur de notre Seigneur. Humanité de Jésus-Christ. Hélène a prié, il vient nous rejoindre dans toutes nos situations. Toutes nos situations. Dans ces heures sombres, se dévoile à nos yeux toute l'humanité de Jésus, le Fils de Dieu. Et j'aimerais aborder cette humanité sous deux points. Dialogue avec les hommes et dialogue avec son Père. Tout d'abord donc, dialogue avec les hommes. Chose absolument mystérieuse, sidérante, dans ce moment tragique, dans ce moment de noirceur la plus absolue. Jésus a besoin de ses amis. Ces moments douloureux, Jésus veut les vivre avec les siens, avec ses disciples. Mais plus particulièrement, avec ceux qui l'ont accompagné dans les moments clés de son ministère. On peut juste passer la diapo suivante. Merci. Qui sont-ils, ses disciples, ceux qu'il a choisis pour vivre dans des moments clés? Allez, je vous fais travailler un peu. On sait déjà qu'il y a Pierre. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Hein, c'est la pédagogie quand même. Hein, je m'adresse à l'institutrice. Pierre, et puis Jacques et Jean. Le Seigneur, il y a quelque temps, les avait déjà choisis pour vivre avec lui des événements très particuliers. La résurrection de la fille de Jaïrus, la guérison de la belle-mère de Pierre. Et dans l'intimité du témoignage du Père envers le Fils lors de la transfiguration. Le désir d'être accompagné au cœur de ce moment si difficile révèle, me semble-t-il, une forme, et je vais peut-être vous choquer, de dépendance de la part de notre Seigneur. Dépendance à l'égard de ceux qui l'entourent. Et je réalise à quel point le mot « dépendance » pour décrire la situation du Fils de Dieu peut nous surprendre. Comment le Fils de Dieu, celui par qui tout a été créé, dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il soutient toute chose par sa parole, peut-il être dépendant? Et pourtant, c'est ce que nous constatons dès sa naissance, n'est-ce pas? Il est dépendant de ses parents pour ses besoins élémentaires, d'un pouvoir même d'une femme pour étancher sa soif. Jésus s'est rendu dépendant, volontairement. Mais il est rare de voir Jésus éprouver le besoin d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son âme. Il a un besoin fort de vis-à-vis, de personnes qui l'accompagnent. Et pas seulement qui l'accompagnent, mais qui recueillent ses émotions, qui recueillent ses peurs, qui recueillent ses angoisses. Il est au pied de la dernière ascension, celle qui l'amènera à l'ultime combat. Dans son incarnation, Jésus accepte de créer des liens avec les hommes, d'entrer dans une relation vraie, dans une relation authentique avec eux. Des amitiés se nouent, Lazare, son ami. Des cercles plus ou moins proches se créent, et cela même au sein des disciples. Jean, le contemplatif, véritable éponge de l'amour du Seigneur. Pierre, celui qui est prêt à tout pour risquer sa vie pour son Seigneur. Thomas, le rationnel. Autant de tempéraments qui ne sont pas sans influencer les rapports que Jésus entretient avec ses disciples. Jésus entre dans une relation interpersonnelle, colorée par tous ces éléments. Jésus, l'homme, n'entretient pas de relation désincarnée, sans émotions variables en fonction des personnalités qu'il a en face de lui. Bien sûr qu'il aime tous les disciples, tous ses disciples, et d'un amour absolu, total. celui qu'il manifestera pour chacun à la croix. Mais l'amour du Christ est vivant, dynamique, coloré par les personnes qu'il a en face de lui. Que veut-on dire lorsque nous disons « Dieu est un Dieu personnel » ? Sinon qu'il entretient une relation unique avec chacun d'entre nous. Pourquoi choisit-il Pierre, Jacques et Jean ? Grande question. Quelle est la relation particulière que Jésus entretient avec ses trois disciples ? Le texte ne nous dit rien. Je ne vais pas en dire plus que le texte ne le dit. Nous savons que Jean et Pierre joueront un rôle déterminant dans l'Église primitive. Jacques, frère de Jean, sera mis à mort très tôt par Hérode. Est-ce leur personnalité ? Est-ce leur engagement difficile à dire ? Ce que l'on sait, c'est que dans cette nuit si particulière, Jésus a besoin tout près de lui de ces trois personnalités. Ce n'est pas qu'il dénigre les autres ou qu'il aime moins les autres disciples, mais ce sont eux qu'il a choisis pour ce temps particulier. Quelles sont les implications de ces choix et de cette dépendance voulue par notre Seigneur ? Je crois que la première leçon que nous devons retenir, c'est que personne ne remplace personne. Personne ne remplace. Nous ne sommes pas, aux yeux de Dieu, des clones, des numéros interchangeables. La brebis perdue ne sera pas remplacée par les 99 autres. Notre personnalité, ma personnalité, est précieuse aux yeux de Dieu. C'est surprenant. Mais c'est ainsi. Ce qui veut dire que lorsque nous tenons à distance de sa présence, lorsque nous manquons à l'appel, lorsqu'il nous invite à venir à lui, il y a un vide que personne ne peut combler. Personne. Et ça ne laisse pas indifférent. Quelle que soit votre personnalité, quel que soit votre tempérament, lorsque vous n'êtes pas dans la présence du Seigneur, il y a chez lui un manque. Un manque. La deuxième chose qui découle de ce premier constat, c'est que notre Seigneur, dans son incarnation, et je l'ai dit un peu plus tôt, s'est rendu volontairement dépendant des relations qu'il a tissées. Les émotions terribles le submergent, réclament la présence de ses trois disciples. Cette nuit, la dernière qu'il passera avec ses amis, Jésus dévoile un autre aspect de sa personne. Ce n'est pas le Jésus dans toute sa puissance. Ce n'est pas le Jésus qui domine la mort, qui domine la maladie. Ce n'est pas sa gloire qu'il révèle, appuyé par le témoignage du Père. Mais le Fils de Dieu, dans son humanité, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Oui, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, celui par lequel tout a été créé dans son amour pour nous, a endossé notre humanité pour nous rejoindre, et je dis bien nous rejoindre dans tout les espaces de notre condition humaine. Excepté le péché, bien sûr. Ça va sans dire. Ça nous révèle donc sa fragilité. La présence des trois disciples a un but. J'ai besoin de dire à ces trois amis ce que je ressens au plus profond de moi-même. Il a besoin de me dire. Et que dit-il ? Je suis accablé de tristesse à en mourir. Ces mots difficiles à traduire, sur lesquels nous reviendrons, expriment le comble de l'horreur et de l'effroi. Et pour le Seigneur, les mots ont un sens. Il ne part jamais à la légère comme parfois nous le faisons en employant des mots extrêmes. Ça me tue. Hein? Si tous ceux qui disaient ça me tue mourraient vraiment, voyez un peu le dégât, ça me tue. Non. Lorsque Jésus dit je suis accablé de tristesse à en mourir, ça veut bien dire que sa tristesse l'amène dans des abîmes effroyables. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu la dépression. Ces moments où la tristesse vous envahit et vous sentez, vous avez le goût à l'intérieur de vous-même de la mort. Tellement la tristesse vous entraîne sur ce jour. C'est exactement ce que Jésus confie à ses disciples. Cette confession est saisissante. Elle nous dit sa fragilité. Tenant, hein, de parler là encore de fragilité de Jésus. C'est délicat théologiquement. Car comment parler de la fragilité de Jésus sans altérer sa divinité, sa toute-puissance? C'est là, me semble-t-il, toute la grandeur de l'acceptation de son incarnation. En s'incarnant, il a accepté de prendre sur lui pleinement toute notre humanité, de l'endosser de manière absolue, à l'exception du péché, je rappelle. C'est Jésus absolument humain qui se révèle comme jamais il ne l'a fait auparavant dans ce monde des oliviers. Et lorsque Jésus s'est fait homme, il ne joue pas un rôle. Il ne prend pas simplement une apparence humaine. Il revêt pleinement, réellement, notre condition humaine avec tout cela comporte comme conséquence affective et émotionnelle. Pour ne parler que des conditions humaines qui nous intéressent pour la méditation de notre passage. Oui, le Fils de Dieu accepte d'entrer dans les souffrances que les émotions humaines provoquent. L'Évangile de Jean nous avait dévoilé un peu de ces aspects de Jésus lors de la mort de son ami Lazare, où il pleure. Et cette tristesse est liée à un événement qui concerne une tierce personne. Et puis il est celui vers lequel on se tourne pour chercher un secours. Ce qui fait la particularité de ce passage, c'est que Jésus parle d'émotions profondes qui le traversent, lui, et réclame pour lui l'assistance de ses amis. Fragilité ou limite de la condition humaine dans laquelle Jésus a accepté de rentrer. Appelez ça comme nous voulons, mais la réalité est bien là. Jésus a besoin de ses trois amis. Quel mystère! Lorsque nous pensons à l'identité de celui qui demande l'écoute, le soutien de ses trois disciples, quel chemin! Quelle abnégation de la part du Fils pour que le ciel rejoigne la terre! Il aurait pu en appeler aux anges pour le renouveler, le réconforter, lui donner le courage. Non! Il en appelle aux hommes. Que nous disent ces choses sur notre Seigneur et sur nous-mêmes. Tout d'abord, l'humilité du Christ. Il ne va pas à la croix en chantant des cantiques. Il ne cache pas ses émotions. Il les révèle, les confesse à ses amis, eux qui ont eu si souvent besoin d'encouragement, de soutien de la part de Jésus. C'est avec eux qu'il partage ses souffrances morales. Il n'a pas eu honte d'être appelé leur frère, notre frère. Il n'a pas honte d'éprouver nos émotions humaines, nos sentiments humains. Il dévoile sa fragilité qu'il a volontairement endossée. Oui, Jésus s'est précarisé pour nous. Précarisé pour nous. En acceptant les conséquences de cette précarisation. Et nous-mêmes, nous n'échappons pas à cette précarisation, particulièrement dans cette période. Osons confier nos émotions, nos sentiments à nos amis, à nos frères, dans la foi Nous ne ressentirons jamais dans sa profondeur ce que Jésus a ressenti, mais nous avons parfois tant de peine, avouons-le, à dire nos abattements. J'ai donné un témoignage de victoire extraordinaire. J'aurais pu vous raconter des témoignages où je me suis perdu dans les montagnes de Kabylie. C'est un peu les Cévennes, hein, méditerranéennes. Et je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as secouru il y a 3 jours, et là tu me laisses perdre dans les montagnes où j'ai fait je ne sais pas combien de centaines de kilomètres. Nous avons parfois tant de peine à dire nos abattements. Nous ressentons ces émotions comme une faiblesse, honteuse. Alors évidemment, nous les disons au Seigneur, parce que nous avons appris depuis que nous pouvons dire au Seigneur tout ce que nous ressentons. Mais à nos amis, à nos frères, c'est difficile, hein. Quelquefois plus facile d'avouer les choses au Seigneur et à notre Père qu'à Dieu, qu'aux hommes, pardon. Serions-nous plus spirituels que Jésus? Plus fort que lui en vivant les choses dans la solitude la plus absolue, de peur de passer pour un fragile, surtout pour ne rien devoir à personne. Jésus s'est rendu dépendant des relations qu'il a tissées, et cela devrait nous faire réfléchir. Autre élément, c'est que Jésus leur accorde sa confiance. Le temps de la formation des disciples s'achève. Ils seront bientôt ceux qui devront réconforter, soutenir, recueillir des confidences lourdes de personnes désemparées, tristes à en mourir. Ils ne les traitent pas comme des enfants, mais comme de véritables vis-à-vis. Il leur fait confiance dans leur capacité à accueillir cette lourde confession. Il dit souvent que la confiance se gagne. Je ne crois pas que la confiance se gagne. La confiance se donne. Elle se livre. Jésus connaît la fragilité de ses disciples. Il connaît particulièrement l'inconséquence de Pierre. Et pourtant, il leur fait confiance. Il leur fait confiance. Il leur livre ce qui habite son âme et leur fait confiance pour ne pas s'écrouler et abandonner. Dialogue avec ses amis. Et puis, dernier point, et il sera plus court, rassurez-vous, dialogue avec le Père. Aussi indispensable que soit l'accompagnement des amis les plus précieux, ces accompagnements à ses limites. Jésus, après une confession lourde devant ses 3 amis, poursuit son cheminement. Et ce partage était pour lui nécessaire, mais pas suffisant. Après un échange avec ses amis, il a besoin d'un cheminement solitaire pour rejoindre son Père dans un dialogue serré. Et tous les essences humains, aussi pertinents soient-ils, ne remplaceront jamais le tête-à-tête avec notre Père. C'est le chemin difficile que nous empruntons si peu, parce qu'au cœur de notre tristesse, ce chemin nous semble nous enfermer dans une solitude encore plus profonde. La pièce la plus retirée dont nous parle Jésus nous apparaît parfois comme le lieu de toutes les solitudes. Et pourtant, le lieu si éloigné, cette chambre secrète, si isolée, est souvent le lieu de toutes les victoires, de bien des victoires. Jésus confie les raisons de son abattement à son Père. Devant son Père, Jésus s'effondre. Et le texte Marc nous dit quelque chose de cette nature. Il se laissa tomber à terre. L'abattement de Jésus est à son comble. Ne vous est-il jamais arrivé dans des moments d'abattement de vous enfermer dans votre chambre pour prier votre Père et avant de formuler quoi que ce soit, de vous laisser tomber sur votre lit quand vous étiez abattu? Exactement ce que je dis. L'attitude du corps rejoint l'attitude intérieure. Le poids de l'épreuve est trop lourde. C'est le dialogue avec son Père qui nous permet de comprendre de manière encore plus précise les raisons de la tristesse et de l'effroi de Jésus. Éloigne de moi cette coupe. Ce qui l'accable et qui rend son âme triste comme la mort, c'est cette coupe. Et la coupe dans l'Ancien Testament est symbole de la colère de Dieu. Symbole repris par le livre de l'Apocalypse. Et lors de cette nuit qui précède la croix, Ce qui accable à ce point Jésus avant toute autre considération, c'est qu'il va subir la colère du Père. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le visage de son Père, ce Père qui l'aime, dont l'unité et l'harmonie avec lui sont parfaites, ce lien va être à un moment donné rompu. Le visage du Père va se détourner du Fils. Et pour Jésus, c'est insupportable. Insupportable. Et pour nous, difficile de toucher du doigt la souffrance de Jésus avec cette perspective. L'amour entre le Père et le Fils était parfait. L'unité entre les deux personnes de la Trinité est d'une intensité inimaginable. Il n'y a pas le plus petit espace entre le Père et le Fils. Ils sont un. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, dit le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit le Fils. Comment dire plus clairement cette union entre les deux personnes divines? Là encore, Jésus ne cache pas sa peur, son effroi, son angoisse. Il ne s'enferme pas dans un dialogue solitaire, mais il vient vers Dieu et l'appelle en des termes affectueux qui révèlent sa confiance et sa proximité. Père, au cœur de son combat, Jésus ne s'éloigne pas de son Père. Il ne le garde pas à distance en employant le mot « Seigneur » ou « Éternel », mais « Père ». Le dialogue, même dans l'épreuve, reste un dialogue de confiance, fait d'une relation intime. Jésus, au cœur de l'épreuve la plus terrible, reste en lien étroit avec son Père. Et c'est cette confiance qui lui donne la liberté inouïe, mystérieuse même, de demander quelque chose d'incroyable à son Père. N'y aurait-il pas, Père, un autre chemin qui m'éviterait que ton visage se détourne de moi? La liberté de Jésus le conduit à explorer tous les moindres recoins de la prière pour tenter de trouver une autre issue que celle de la croix. Et ce n'est qu'au bout de cette exploration, par trois fois, nous dit le texte, qu'il en vient à dire cette phrase que nous avons souvent méditée, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La soumission à la volonté de Dieu passe parfois par ce long chemin d'exploration. Les moindres recoins de la prière. Et même si le Père sait qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui proposé initialement, il ne nous en voudra jamais de chercher avec lui d'autres issues que celles qui nous paraît inexorable et qui nous terrorise. Mais il s'agit pour nous de le faire dans un dialogue de proximité, en n'oubliant jamais qu'il est notre Père aimant, dont la volonté est toujours juste et bonne pour nous. Jésus est revenu trois fois auprès de ses trois amis. À chaque fois, il les a trouvés endormis. Quelle déception! Quelle déception pour celui qui attendait de leur part un soutien dans la prière. Si les trois disciples avaient eu un smartphone, quel émoji il leur a envoyé? C'est ce que c'est qu'un émoji, hein? C'est ces petites figures qui se trouvent qu'on envoie dans les textos, une tête qui sourit, qui pleure, et puis il y a ces mains jointes que l'on envoie à des amis pour leur dire qu'on prie pour eux. Je pense que les trois disciples auraient envoyé ce petit texto à Jésus, et ils n'auraient pas prié. Combien de fois avons-nous envoyé cet émoji à des amis en leur disant que nous prions pour eux. Et puis nous sommes passés à un autre texto, pour quelqu'un d'autre, à un autre WhatsApp, pour quelqu'un d'autre. Ils sont fatigués, éreintés par une semaine surchargée. Mais Jésus avait besoin particulièrement d'eux pendant une heure. Une heure!
Jésus a parfois besoin de nous de manière intense pendant une heure. Et nous dormons. Les disciples n'avaient sans doute aucune idée de ce qui était en train de se jouer. Ils étaient en décalage avec Jésus. Nous n'aurions sans doute pas fait mieux. Que faisons-nous des sujets de prière que l'on nous confie? Sommes-nous en soutien dans la prière avec les frères et sœurs qui nous demandent de prier pour eux? Ce récit est le texte qui met le plus en lumière l'humanité de Jésus. Et j'aimerais, en conclusion, vous laisser quelques questions de réflexion pour cheminer comme ça avec. Si on peut mettre juste la dernière. Oui, merci. Ce texte nous dit avec force que nous pouvons compter sur lui. Sa joie est de nous avoir à ses côtés et de vibrer à sa vie. Il nous associe encore aujourd'hui à son œuvre. Il nous veut partie prenante dans l'action comme dans la prière. Je peux compter sur lui. Peut-il compter sur nous? L'amitié est belle. Les frères et sœurs indispensables. Jésus s'est confié à quelques-uns de ses disciples. Avons-nous des frères et sœurs avec lesquels nous partageons? Si notre réponse est négative, que nous dit cette absence de communion fraternelle sur nos relations dans l'Église? Que nous dit cette absence de partage sur notre manière de percevoir nos fragilités? Il y a joie le bonheur pendant tout mon ministère d'être accompagné d'un ami avec qui j'ai tout partagé. Comme on était dans des comités semblables, nous nous débrouillons pour loger chez le même hôte et souvent dans la même chambre et nous avons passé des nuits à partager nos difficultés, nos joies. Ça a été une bénédiction pour moi. Troisième question, regardons-nous toujours notre Père Céleste comme notre Père, même dans l'épreuve? Comment cherchons-nous une autre voie que celle qui se présente à nous et qui nous fait peur? Nous sommes tellement, quelquefois, dans le déni. Dans le déni de notre humanité. De notre humanité. En prenant des raccourcis, quitte à éviter la volonté de notre Père, ou en explorant avec lui tous les possibles. Je veux être moi-même authentique devant le Seigneur. Et puis, dernière chose. Non, c'est la dernière chose. Je croyais qu'il y en avait une autre. Puis ce double dialogue de Jésus nous inspirer et nous conduire à la même prière que Jésus. Non pas ma volonté, mais la tienne. N'oublions jamais que cette phrase, il la prononce. Après un long cheminement de combat. J'ai peur que quelquefois nous prenions des raccourcis et arrivions à dire des choses et des phrases stéréotypées, tout simplement parce qu'on nous les a enseignées et pas parce que nous les avons vécues. Amen. Encore habitué à la liturgie de tenant. Je vous propose juste de prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, devant ta parole, nous voulons nous incliner parce qu'elle nous rappelle tout simplement ce que tu as vécu pour nous. Nous sommes confondus devant ton incarnation et tout ce que tu as accepté volontairement de subir, de porter, de vivre pour nous rejoindre. Nous voulons ensemble ce matin te dire merci. Merci parce que tu te révèles comme notre frère en humanité. Que tu n'as pas eu honte de vivre cette fragilité humaine. De vivre aussi tous ces questionnements qui sont les nôtres. Et Seigneur, tu l'as fait dans
la plus grande des lumières qu'il soit, c'est-à-dire dans la lumière de ton Père. Seigneur, alors que nous avons, il n'y a pas si longtemps, été encouragés à vraiment te ressembler, puissions-nous, Seigneur, par l'aide de ton Esprit Saint, à vivre une vie qui te ressemble, à vivre une vie humaine qui soit à l'image de la tienne. Merci parce que tu nous accompagnes sur ce chemin, que tu nous inspires sur ce chemin, que tu nous montres une direction. Garde-nous, Seigneur, des raccourcis, des chemins de traverse, et que nous puissions vraiment marcher à ta lumière, inspirés par ton exemple. Veuille, ô notre Dieu, nous garder dans nos questionnements, dans notre fragilité, dans nos abattements, toujours orientés vers toi, dialoguant avec toi. Merci pour ces amis qui nous accompagnent, ces frères et sœurs qui nous soutiennent. Que tu nous aides, Seigneur, à cultiver cette amitié dans l'Église et à faire de nos frères et sœurs des confidents, des appuis, de ceux qui comptent pour nous. Nous te le demandons en ton nom. Amen.